consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Le grand saut. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Fanny Lorest, Rémi Clenet, Bertrand Chollet, Enora Lenezette, Léane Garnier, Sacha Dubreuil, Corentin Boutou, Gaëtan Géhanneau, Sophie Porzier et l'auteur. Deuxième partie sur 6. Paul est un adolescent qui a fait une tentative de suicide en se défenestrant. Grièvement blessé mais vivant, il est à l'hôpital. Une enquête de police a été dépêchée pour savoir si d'autres personnes se trouvaient dans l'appartement au moment du drame.
Je ne suis pas de nature suicidaire.
C'est par cette phrase que Paul accueillit le psychologue de l'hôpital. Celui-ci lui avait demandé de se présenter à 10h, après ses soins. Une infirmière avait poussé son fauteuil jusqu'à son bureau, une pièce uniforme pas très loin de l'accueil. Puis le psy s'était absenté presque aussitôt. Paul en avait profité pour feuilleter une revue et à son retour, il avait attendu qu'il soit assis et avant même les formules de politesse, il avait dit « Je ne suis pas de nature suicidaire. » Le psy, un homme d'une cinquantaine d'années, droit comme un bâton de pluie, l'avait fixé. Son bandage de pirate autour de sa tête avait libéré son œil droit et Paul s'imagina que ce type ne le voyait qu'à moitié.
Je vous crois.
Je me fiche que vous me croyez. Je vois pas vraiment ce que je fais là.
Paul. Vous avez sauté par la fenêtre. Ce n'est pas un acte anodin.
J'espère qu'on va pas faire de jeu à la con avec les ombres, les taches d'encre et le divan. Hein. Sinon je m'arrache.
Non. Il ne s'agit pas de ça. Préférez qu'on parle de chiffres, de sociologie? Ça vous plaît, je crois, la sociologie?
Oh, je retourne déjà en cours.
Les suicides chez les jeunes ne sont pas rares, vous savez. La dépression adolescente n'est pas un mythe.
Je ne suis pas concerné, je vous l'ai dit. Je fais plus que mon âge.
Faire plus que son âge, c'est autre chose. Ça n'entre pas dans les statistiques.
Et puis, le suicide, je suis pas trop pour.
Vous avez le droit d'être contre, mais parfois l'accumulation d'idées noires fait qu'il ne reste plus que cette issue pour arrêter de souffrir.
C'est pas très encourageant, hein.
Ce n'était pas votre cas ?
Non. À tous les coups, je vais devenir un sujet d'étude pour les sociologues. Ou même peut-être pour vous. Vous écrivez des rapports sur vos patients ?
Comment pourriez-vous qualifier votre geste ?
J'ai sauté par la fenêtre à 12h35.
Sur un coup de tête?
Le coup de tête, c'est surtout quand je suis arrivé en bas.
Pour les psychologues, la défenestration est quelque chose à part. Les gens qui se suicident en sautant ressentent comme un appel à combler un vide.
Mais personne ne m'a parlé. Je n'entends pas de voix. Vous voulez m'envoyer chez les fous?
Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'ils expérimentent le vide autour d'eux. C'est très différent de la prise de médicaments, de la pendaison ou de l'arme à feu. Il y a un temps plus long entre le début du geste et la fin. Une fin fatale, le plus souvent.
Désolé, c'est tout ce que j'avais sous la main.
Les autres façons ne vous ont jamais tenté?
Mais où voulez-vous que je trouve une arme?
Parlez-moi du vide.
C'est un peu comme cette discussion, vous voyez.
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous étiez dans l'air?
Ça va très vite, vous savez. Il faisait froid. Mais un froid qui vous glace de l'intérieur. Un peu comme quand il y a une interro-surprise. Et je crois que mon cœur ne battait plus aussi.
L'expérience que vous avez vécue est assez rare.
La suite surtout. Je vais aussi devenir une grenouille de laboratoire.
Vous vous sentez de faire vous-même la dissection?
Franchement, je vois pas ce que je fais là.
Vous pouviez refuser de me rencontrer?
Ça me faisait une sortie.
Moi, Je suis là pour faire en sorte que vous ne recommenciez pas. Que vous alliez mieux. Pour éviter d'user de manière aussi expéditive. Cherchez les raisons aussi pour mieux les traiter.
Et pour ça, vous avez besoin de ma collaboration ?
Parlez-moi de votre réalité, de votre vie quotidienne, à la maison, au lycée.
Je croyais qu'on allait parler de choses générales.
Eh bien, répondez-moi de manière générale.
Ma réalité. Mais elle est terriblement supérieure, ma réalité. Je suis pas sûr que vous puissiez en saisir quoi que ce soit.
Essayez quand même.
J'ai eu besoin de revenir sur Terre. C'est pas si compliqué à comprendre.
Il existe d'autres manières pour reprendre corps avec la réalité, des façons moins expéditives.
Expéditive, c'est le bon mot. Considérez que c'était une expédition, comme les explorateurs du pôle Nord.
Et vous pensez que votre expédition est une réussite ?
J'en suis sorti vivant, et mes orteils n'ont même pas gelé.
Vous êtes plutôt mature pour votre âge.
Et j'ai même encore grandi.
Il fallait vraiment se rendre dans un endroit terriblement inhospitalier pour valider votre expédition.
Inhospitalier pour finir à l'hôpital ? J'allais quand même pas aller au coin de la rue, j'aurais eu l'air de quoi ?
Je me demande juste si, ensemble, on ne peut pas chercher d'autres possibilités, d'autres moyens pour ajuster votre réalité supérieure.
Réalité terriblement supérieure. J'ai tout pour être heureux et plus encore.
Alors pourquoi ce geste ?
Je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Et puis devenir adulte, c'est assumer. J'assume pleinement. Aux autres d'en faire autant.
Vous éprouvez souvent ce sentiment de supériorité ?
Complètement.
Vous vous pensez supérieur au point de pouvoir défier la mort ?
Mais c'est ce qu'on fait tous les jours, à chaque instant.
Alors pourquoi pas le coin de rue ?
Pour finir écrasé sous un train ? Oh non, merci. Il fallait de l'éclat, ce geste.
Les médecins disent que vous avez eu de la chance.
La chance, ça se provoque. Et quand la mort s'est présentée, j'étais plaqué au sol. Son coup de faux est passé juste au-dessus de ma tête.
Vous ressentez souvent un sentiment d'invincibilité ?
Vous voulez appeler ça comment ?
En psychologie, les gens qui ont traversé des épreuves très difficiles et qui s'en sont sortis éprouvent ce sentiment. Charlie Chaplin en parle dans ses mémoires. Il venait d'une famille
Chaplin
pauvre.
Il est mort en Suisse, dans un chalet, au bord du lac.
Que signifie ce que vous avez écrit sur votre torse ? Mon con. C'est comme ça que vous vous voyez ?
Là, je me vois plus trop.
Ce message s'adressait à quelqu'un en particulier ?
À la ville et au monde, comme dit le pape. Et ma mère aussi. Mais le geste seul avait de la valeur. Et puis, parfois, je suis vulgaire.
Qui a prononcé ces paroles ? Mon con.
Je m'en rappelle plus. Et en tombant sur l'arbre, j'ai arraché des branches mortes. Ça m'a débarrassé. Mais j'ai la sensation que ma réalité est devenue plus ordinaire. Ça ne me rassure pas vraiment.
À quel point ça ne vous rassure pas ?
J'y ai perdu quelque chose, je crois. J'ai l'impression d'être devenu mortel. C'est décevant. Vous pouvez m'aider, docteur ?
Vous pensiez que vous étiez immortel ?
Mais comme vous, comme tout le monde. On croit tous qu'on ne mourra jamais, qu'on va vivre 100 ans, 1000 ans. En fait, vous ne pouvez pas grand-chose pour moi.
Et aujourd'hui, vous savez que vous mourrez un jour comme tout le monde.
Je suis trop jeune pour répondre à cette question. Mais le prof de philo a dit une fois, tant qu'on est en vie, on ne peut rien savoir de la mort puisqu'on est en vie. Et quand on est mort, on n'en sait pas plus puisqu'on n'est plus en vie. Alors autant s'en foutre.
C'est ça, donc ? Votre réalité terriblement supérieure ? Toucher les limites entre la vie et la mort ?
Toucher les limites entre ma vie et ma mort. La mort, c'est abstrait. Seule ma mort m'intéresse. Et ma vie aussi. Vous me trouvez inquiétant ?
Vous pensez l'être ?
Par moments, j'ai la sensation qu'on m'envoie des coups de coude dans les côtes.
Aucun thérapeute ne dit de ses patients qu'ils sont inquiétants. Mais les symptômes peuvent l'être, eux.
On dit aussi que lorsqu'on va mourir, on revoit sa vie en accéléré.
Et vous, qu'avez-vous vu ?
Les trois aiguilles d'une horloge, quelques brins d'herbe et un emballage de Kinder Bueno. Vous savez, c'est pas terrible, hein, quand la dernière vision du monde qui vous a vu naître est celle d'un Kinder Bueno.
Vous êtes d'une nature provocatrice.
On va pas pleurer non plus. Mais allez, pour que vous puissiez remplir votre fiche, non, je n'ai rien vu passer devant mes yeux et c'est sans doute pour ça que je suis encore en vie.
C'est peut-être aussi que vous n'en avez pas fini avec ce monde-là, que vous avez encore des choses à accomplir.
Ça en fait des peut-être. Non mais vous imaginez si Jésus sur sa croix avait demandé du chocolat au moment de mourir ?
Non, je n'imagine pas. Mais on sait qu'il a appelé son père.
Allez, voilà, le couplet sur l'égoïste. Ils en parlent dans votre magazine, les reproches. C'est insupportable. Vous croyez que je n'ai pensé qu'à moi ?
Je ne crois pas. D'autant qu'il y avait du monde dans l'appartement. Vous n'étiez pas seul.
Je voudrais rejoindre ma chambre, là. Je suis fatigué.
Bien sûr. Vos parents doivent passer tout à l'heure.
Qu'allez-vous leur dire ?
Tout ceci reste entre nous, mais je vais devoir leur parler aussi.
Alors je vous souhaite bonne chance. Dites-leur que je dors et qu'ils viennent pas m'emmerder avec leurs états d'âme.
Bonjour mademoiselle, c'est vous qui nous avez appelé ?
Oui, j'ai repensé à un truc, mais ça n'a sans doute pas d'importance.
En tout, t'as de l'importance. Vous n'imaginez pas le nombre d'affaires résolues sur des détails.
Voilà, c'est ici. Plusieurs fois, je suis sortie du lycée avec Paul. Il m'accompagnait, on parlait de tout et de rien, du lycée quoi. On marchait, depuis la sortie jusqu'ici, et puis après il me disait « Je m'arrête là, j'ai des trucs à faire ».
Vous aviez une liaison avec lui ?
Non. D'ailleurs, j'aurais pas voulu. Il était trop bizarre. Par moments, il me faisait limite peur. Et puis après, il racontait des trucs super intéressants sur l'économie, sur la musique. Il est très cultivé. C'est le meilleur de la classe, loin devant tout le monde.
Et donc ensuite, vous parliez et il partait ?
Oui. À chaque fois à cet endroit-là. Même une fois, je lui ai dit « Viens, on va au café ». Mais il m'a dit non. Il me racontait des histoires, mais il ne les finissait jamais. Des trucs sur des groupes, de la musique, et aussi des écrivains.
Et précisément, il partait par où ?
Juste ici, la rue. Une fois, je me suis cachée, pour l'observer. Il est entré au numéro 9.
Il connaît quelqu'un dans cet immeuble ? Un camarade de classe ?
Je sais pas.
Et il n'a jamais rien dit sur ces trucs à faire ?
Non. Mais pourquoi vous faites une enquête ?
Paul rejoignit sa chambre et sombra dans un sommeil lourd. À son réveil, on lui dit que ses parents étaient passés, il reviendrait au soir. Bien sûr, il savait que durant tout le temps où il était resté dans ce coma artificiel, ses parents l'avaient veillé, se relayant à son chevet. Comme sa mère le faisait parfois dans ses relais de prière que les derniers croyants du quartier se passaient pendant ce temps qui précédait Pâques. Puis les médecins l'avaient réveillé. C'était un jeudi. Passé la délicate période pendant laquelle il ne se rappelait plus des raisons de sa présence dans cette chambre écarlate, il fut rassuré d'entendre l'infirmière lui dire que ses parents seraient prévenus le plus vite possible. La chambre était vide. Juste pleine de lui et d'un tas d'appareils qui faisaient du bruit. Et de l'infirmière aussi, dont l'accent lui fournissait des images de palmiers sous la neige. Elle parlait sans cesse, comme si le silence la gênait. Plus plus sûrement pour le rassurer, s'imaginant comme l'expérience avait dû être terrible pour un être si jeune. Et au soir de ce réveil, il lui fallut passer sous le feu de questions. Mais pourquoi tu nous as fait ça? On était morts d'inquiétude. Mais on t'a tout donné pourtant, tu as tout à la maison. Dis-moi pas que toi aussi tu fumes. Tu recommenceras pas, dis. Tu as pensé à ta mamie? J'espère que tu reviendras vite à la maison. Le bac? Mais on s'en fout du bac! Paul avait écouté, hochant péniblement la tête, remerciant les médecins d'avoir posé des bandages sur ses yeux, regrettant presque que rien ne vienne boucher ses oreilles. Il gémissait dès qu'une main, une bouche venait se poser sur sa peau qui, il en avait la certitude, avait acquis une sensibilité supérieure. Elle aussi entrait dans la réalité terriblement supérieure. Plus jamais il n'accepterait qu'on le touche. L'infirmière, dont les gestes professionnels quand elle venait le laver, des actes froids et calculés, était la seule à avoir grâce à ses yeux. Un toucher de gants de toilette et de serviettes chaudes. Il tenait à sa propreté. Sa sœur n'avait rien dit. Pas un mot, pas un geste. Il l'avait juste entendu renifler. Elle était bien plus jeune. Il aurait voulu lui dire qu'il comprenait sa panique, qu'il ne fallait pas qu'elle prenne exemple sur lui, mais il attendrait pour tout cela. Elle était aussi fine et silencieuse qu'il pouvait être théâtral et bruyant. Tout dépendait de l'endroit et du moment. Elle seule savait des choses que tout le monde ignorait. Les flics aussi étaient revenus. Ils posaient des questions absurdes. Était-il sûr que personne dans la maison ne l'avait vu sauter? Non mais il n'avait pas poussé l'exploit à sauter en arrière, un œil sur le salon, l'autre vers le couloir. Il n'était pas Fosbury. Qu'allait-il faire au numéro 9 de la rue Bugeaud? Aucune idée. On n'avait pas retrouvé son portable, il ne bornait nulle part. Avait-il une idée où il pouvait bien se trouver? Paul faillit répondre « Dans ton cul ». Mais il s'abstint. Non, la seule chose qu'il regrettait était d'avoir sauté un peu tôt. 12h35 était une heure banale. 15h, ça sonnait mieux. Ça faisait un compte rond. Et puis, il aurait pu manger sa part de gâteau. Un gâteau aux fraises de chez Pernet qu'il était allé chercher le matin même. Pourquoi un gâteau? Avaient demandé les flics. Pour l'anniversaire, avait répondu Paul d'un ton las.
Il est sorti du coma.
Cool. C'est bien la seule bonne nouvelle de la journée.
Moi, je veux bien aller le voir, mais je veux pas y aller seule.
Je peux venir si tu veux. Faut qu'on se cale une date.
Il paraît que les flics sont encore là. Putain, mais qu'est-ce qu'ils cherchent?
Ben, toi? Ou alors le prof d'histoire? Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Dupont de Ligonnès?
C'est ouf, cette histoire, quand même.
Quoi? Dupont de Ligonnès?
Moi, je pense qu'il y a un truc derrière.
Les flics avaient de nouveau convoqué les parents à propos de cet anniversaire. Ils n'eurent pas besoin de prêcher le faux pour connaître le vrai. Le samedi où Paul s'était jeté par la fenêtre, on fêtait les 46 ans de son père. Paul leur avait confirmé cela, ajoutant qu'il était comme ces bougies qu'on n'arrive pas à éteindre, celles qui se rallument sans cesse quand on les souffle et qui finissent par agacer tout le monde et à déposer des traînées de cire sur la pâte d'amande où il est écrit « Bon anniversaire ». Alors il faut tremper ses doigts dans l'eau pour les éteindre l'une après l'autre. Et puis les ranger dans la boîte en plastique, jusqu'au prochain anniversaire. Les parents confirmèrent. Leur malaise fut perceptible quand le père déclara avoir soufflé ses bougies quelques instants avant que les pompiers ne sonnent à la porte. Ils les questionnèrent à nouveau sur les relations au sein de la famille. Ce graffiti sur le torse de son fils dont personne ne semblait connaître la provenance. Puis ils demandèrent l'intervention de la cellule spécialement dédiée aux mineurs afin de poser des questions à la petite sœur. Enfin, les parents purent rentrer chez eux. Ça va comment? C'est par cette question et d'autres aussi, anodines et un peu gênées, que les deux élèves venus voir Paul à l'hôpital ce jour-là masquèrent leur malaise. Puis ils enchaînèrent par des remarques insignifiantes sur la vie du lycée et ce qu'en disaient les autres. Ils n'osaient pas le fixer dans les yeux. Paul faillit même leur demander s'il n'avait pas été tiré au sort pour venir le voir. Mais il n'en fit rien. Il fit même le contraire, jouant les malades de circonstance, comme pour une appendicite sans gravité. Il sortirait bientôt. Les deux visiteurs, une fille et un garçon, étaient venus avec un menu complet de chez McDo. Car à l'hôpital, on ne mange pas bien. C'est presque aussi mauvais qu'à la cantine. Paul dévora le tout sous l'œil réprobateur de l'infirmière qui passait dans le couloir. « Vous voulez savoir comment ça fait ?» leur demanda-t-il. Un silence gêné emplit la pièce. Paul sentit immédiatement que ses deux interlocuteurs, avec lesquels il n'avait pas forcément d'affinité mais qu'il appréciait quand même, lui pour son sourire éclatant qui vous mettait en confiance et elle, il la connaissait depuis le primaire, car elle avait gagné tous les crosses du collège. Ses deux interlocuteurs balançaient d'un pied sur l'autre.
« Comment ça fait ?» Eh ben, ça fait comme vous en ce moment. Vous aimeriez savoir, hein? Mais vous redoutez de savoir. Je vais vous éclairer. Ça se passe tellement vite qu'on se rend compte de rien. Au fond, j'aurais pu être mort, ça aurait été pareil.
L'humour grinçant de Paul déclencha quelques rires crispés.
Ça fait pas mal non plus. On n'a pas le temps d'avoir mal qu'on est déjà assommé, et quand les médecins te réveillent, t'as de la morphine à la place du sang. Vous savez quoi? Je crois que le corps se blinde contre la douleur. À un moment, il déconnecte les capteurs et on aura beau vous taper dessus, vous sentez plus rien. Comme si les terminaisons nerveuses n'existaient plus. Comme quand on est resté les jambes croisées trop longtemps. Le sang ne circule plus.
Les flics m'ont demandé ce que tu faisais dans la rue Bugeaud.
Paul ne fut pas surpris de la remarque, mais d'un œil entendu, il fit comprendre à son interlocutrice qu'il n'avait certainement pas trouvé ça tout seul. Avant d'ajouter qu'il s'en fichait à présent.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, après? Tu vas revenir en classe?
Tu te souviens du grand? Celui qui était en BTS, quand on était en seconde.
La fille se rappelait bien, mais le garçon ignorait tout de cet événement. Alors Paul entreprit de raconter comment un jour, c'était sur la pause de midi, un élève que tout le monde connaissait dans le lycée du fait de sa taille, 2m10, un garçon blond, tout maigre, avait décidé d'escalader la façade du lycée. Il avait commencé juste pour rire et avait atteint les premières fenêtres sous les encouragements de ses copains qui lui criaient qu'il était Spider-Man. Paul avait été attiré par les bruits. Et c'était bientôt une petite foule qui s'était assemblée, commentant l'exploit de ce garçon un peu fou qui cherchait ses prises pour atteindre le second étage. C'est alors qu'un pion lui ordonna de redescendre, mais le garçon ne bougea pas. Tout le monde comprit qu'il était tétanisé. Il ne pouvait atteindre les fenêtres supérieures et son pied ripait sans cesse. Il s'immobilisa contre la façade et alors qu'il tentait de s'agripper à une ferraille dans le mur, il chuta. Quand son corps s'écrasa sur le goudron, ça fit crac. Paul avait encore le son dans l'oreille, celui des côtes pulvérisées. Le pion se porta immédiatement à son secours et hurla qu'on prévienne l'infirmière. Et c'est Paul qui courut comme un dément à travers les couloirs à la recherche de l'infirmière qu'il regarda, pétrifié tellement l'événement semblait insensé, avant de saisir le téléphone et d'appeler les pompiers. Il disparut pendant 3 mois. Et puis un jour, il revint, tout sourire. Il n'avait même pas de béquille. Une fois, Paul le frôla, voulut lui dire que c'était lui qui avait prévenu les secours, mais il renonça. À quoi bon ? L'année suivante, il n'était plus là. Le silence se fit alors que Paul achevait son coca. La fille ignorait que c'était lui qui avait prévenu l'infirmière.
Il est monté pour des raisons impérieuses dont on ne saura jamais rien. Et il a réussi son coup. Depuis, il vit sa vie comme un quotidien terriblement supérieur. Moi, j'ai fait le contraire. Donc, la même chose. Il faudra bien que je remonte au 6e.
C'est ça qu'il vous a dit ? J'y comprends rien.
Pour nous non plus, c'était pas très clair. Je lui trouve une tête d'halluciné, un peu comme quelqu'un qui ferait une mauvaise descente.
Ça, c'est de l'humour qu'il aurait pu faire.
Bon, sinon, il aura des séquelles ?
Je pense pas.
Vous lui avez pas demandé.
C'était bizarre. Il a parlé tout le temps, et si tu veux mon avis, son cerveau fonctionne très bien.
Mais il marche quand même.
Mais oui. Il veut même prendre les escaliers quand il va revenir chez lui. Il dit que les ascenseurs, ça se décroche d'un rien.
Dans l'appartement familial, le silence avait renvoyé chacun chez soi. Les parents de Paul étaient bien revenus le voir à l'hôpital. Ils avaient d'ailleurs dérangé les deux élèves qui avaient trouvé là un prétexte pour partir. Mais la visite avait été glaciale, entrecoupée de longs silences où Paul semblait jubilé du malaise qu'il instillait dans la pièce. Il avait refusé qu'on l'embrasse, prétextant que les médicaments lui rendaient tout contact humain difficile. Ses parents avaient fait mine de comprendre et l'avaient quitté sur un vague « à demain ». Ils avaient bien tenté de savoir la nature des questions que les flics avaient posées à leur fille, mais celle-ci répondit avec hésitation, ne se rappelant plus de tout. Elle avait précisé aux agents que l'expression « mon con » venait de son père, qu'il en usait parfois pour désigner Paul. Mais elle ne dit rien alors qu'il passait à table ce soir-là.
Comment on va faire quand il va revenir ?
On va faire. On va faire comme on a toujours fait. La vie va reprendre son cours, il va retourner au lycée.
Oui, mais ce sera plus pareil. Il faudra le faire suivre.
Par qui ? Les flics ? Un psy ? C'est juste un accident qu'il faut oublier vite fait. Il recommencera pas.
C'est un peu de notre faute, non ?
Tu vas pas recommencer avec ça, hein ?
Peut-être que tu devrais lui parler. Enfin, je veux dire, il n'a pas fait ça par hasard.
Il a fait ça pour nous emmerder. Passe mal plat. C'est bien son genre. Toujours à se faire remarquer.
Mais tu lui répètes sans cesse qu'il est passif, qu'il comprend rien à la plomberie.
C'est pas de ma faute si on a faim d'intellectuel. Il peut pas être normal de temps en temps, comme sa sœur. Elle la ramène pas, sa sœur. Hein, tu la ramènes pas? Et puis, je suis pas le seul responsable de ce merdier, hein. C'est pas de ma faute, moi.
Mais peut-être que tu devrais lui parler.
Pff, il est trop cuit, ton rôti. Et toi? T'ont posé quoi comme question, les flics?
La sœur garda le silence, faisant mine d'être absorbée par le journal télévisé, et le repas s'acheva ainsi. Et ainsi se poursuivirent d'autres journées de travail, des week-ends, parfois à la campagne, des visites à l'hôpital, toujours tendues, où le père ne se rendit plus, prétextant une surcharge de travail, un chantier à finir. La mère ne toucha pas au désordre de la chambre de Paul. Elle espérait son retour au plus vite et ne voulait pas le mettre en colère en ayant rangé ses livres éparpillés, tous ouverts sur des pages cornées, des notes de pattes de mouche qui classaient suivant des rites que lui seul connaissait, ses collections d'objets incongrus qui l'époustaient au plumeau. Elle renonça même à l'aspirateur, suivant les paroles du prêtre de la paroisse qui avait dit que tout n'est que récapitulation, recommencement infini des mêmes gestes, des mêmes mots, des mêmes rendez-vous sur le calendrier. Tout allait reprendre, comme si le grand sceau de Paul n'avait été qu'une épreuve envoyée par le ciel sur la terre, que seul Dieu en connaissait le sens et qu'il fallait prier pour le rétablissement de la victime. Le prêtre souhaitait le rencontrer dès son retour. Ce n'est pas lui pourtant qui sonna à la porte ce jour-là, mais les services sociaux, qui informèrent les parents qu'une procédure de placement était en cours.